Le matin.
Il a bien changé.
Le matin. Ben oui.
Plein soleil pour aujourd'hui et ce soir, ben il n'y aura pas de pluie. Fait que c'est la bonne nouvelle de la météo comme on aime jusqu'à... Jeff, je peux même aller jusqu'à lundi à du soleil.
Ça, c'est le fun.
Soleil pour aujourd'hui, maximum de 16. Demain, vendredi, maximum de 19. Samedi, ensoleillé, maximum de 23 degrés. Dimanche, ensoleillé, maximum de 24. Et lundi, ensoleillé, maximum de 23. On est gâtés. Salutations aux gens qui font beaucoup de motos automnales. Je vous salue. Ça fait du bien d'embarquer sur sa bécane, sur son cheval de fer, pour aller faire des petites runs. Je fais régulièrement l'île d'Orléans. Je fais régulièrement les Équerres. Je fais régulièrement la Beauce. Puis j'aime bien ça, vous croiser puis vous envoyer la main. C'est le fun. On est une belle communauté. Puis les casse-croûtes sont pas toutes fermées encore.
Fait que quand donc, on arrête de prendre les patates.
Tu jases avec les autres. C'est toujours le fun. L'année passée, j'avais croisé une gang de gens. C'était des motards, mais des vieux motards, là. Des gars que je veux devenir lorsque j'aurai 70-80.
Oh, oui.
C'est des chums. Ils ont leur bécane.
Vie est belle. Life is good.
C'était toutes sortes de bécanes. T'avais du Harley Davidson, puis t'avais les grosses motos de luxe, là. Les Goldwyn, ça se peut-tu?
Ouais.
Je pense que c'est ça, avec les grosses valises. Puis, j'avais rigolé un peu. Je me disais, ah, vous autres, club de motards, les Hellzheimer. Et ils avaient trouvé ça bien drôle, fait que j'avais jasé avec eux autres. Mais eux autres, ils se promènent à travers le Québec, là. C'est leur fin de semaine. Ils partent le matin, puis ils se donnent une run. Puis ils reviennent le soir, où ils dorment là-bas.
C'est cool, ça.
C'est cool. On a toujours hâte d'être rendu là.
Ah, qu'on a hâte, d'être rendu à... Juste penser à comment je peux m'amuser dans la vie.
Ouais, falloir penser à prendre notre retraite à un moment donné.
On n'aura pas le choix.
Notre ami Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile, le gars de Questions Auto, Car Question sur YouTube est là. Salut Matt.
Hey, bon matin, chers auditeurs, mais aussi à mes animateurs préférés.
Ouais, tu vas-tu prendre ta retraite un jour, toi, Matt?
J'espère la prendre. Cependant, j'ai comme de la misère à arrêter. On dirait que j'ai toujours la manie de me rajouter des tâches un peu roulant. Et on me demande souvent comment tu fais, tu dois pas dormir. J'avoue que cette nuit, je me posais la question en rêvant.
Tu te posais la question en rêvant. Oui. Hey, reportage de JE qui n'ont pas été tendres envers certaines voitures électriques. Joint à ça le bureau d'enquête de Québecor qui ont fait des articles sur les voitures électriques. Maintenant, on titre les voitures électriques, puis on les appelle même plus de même, on les appelle pour certaines. Les citrons électriques, l'aventure des voitures rechargeables a viré au cauchemar pour bien des Québécois. Plusieurs automobilistes qui ont eu des pannes à répétition et se tournent même vers les tribunaux. Il y a tellement de technologie, Matt, là-dedans, que tu peux rouler à 119 km/h sur l'autoroute puis qu'à un moment donné, ton char s'éteigne. Voyons donc!
Ben, écoute, est-ce que les véhicules électriques sont moins fiables que les véhicules à motorisation?
Ben, je pense pas.
C'est une très bonne question, cependant. Il faut regarder quand même plusieurs points. En théorie, les voitures électriques devraient être plus fiables que les voitures à essence ou diesel. Pourquoi? Car elles ont beaucoup moins de pièces mobiles. Pas de pistons, souvent pas de transmission complexe, pas d'huile moteur, etc., etc. Il n'y a pas de système d'échappement. Souvent pas d'embrayage non plus. On n'a pas besoin de faire une sélection de vitesse, ni d'une bonne vieille manuelle traditionnelle. Ça n'existe pas encore, malgré qu'il y en a qui en parlaient au travers du temps. Le moteur électrique est mécaniquement très simple et quand même assez durable. Mais dans la pratique, il y a plusieurs études d'endroits extrêmement fiables, comme celle de Consumer Reports aux États-Unis, qui montrent que les véhicules électriques récents ont tendance à être moins fiables que prévu.
Okay.
Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur est la technologie qui est encore jeune. Les constructeurs sont encore en phase d'apprentissage. Il y a beaucoup de modèles qui sont nouveaux avec des plateformes qui sont inédites, donc pas nécessairement éprouvées au travers le temps. Et on a vu une tendance au niveau de l'automobile dernièrement, c'est que tout le monde accélère le plus possible la livraison, la création. Juste les Coréens qui sont rapidement fou raide quand ça vient le temps de lancer des nouveaux modèles. Les Japonais sont beaucoup plus conservateurs. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on lance des modèles très, très, très vite? Ben, Tesla est un peu un exemple. On a pris les propriétaires pour des bêta-testeurs. L'autre point, c'est la complexité électronique. Aujourd'hui, c'est bourré de logiciels, de capteurs, d'écrans, de systèmes d'infodivertissement connectés. Et c'est souvent ça les bugs qu'on voit souvent, c'est des bugs logiciels et électroniques qui amènent les pannes les plus fréquentes. Il ne faut pas oublier qu'ils ont tous passé par là et on peut penser souvent à des soucis d'écran ou encore de conduite autonome, voire même de mise à jour au niveau du véhicule.
Ouais, écoute, Matt, dans le journal de ce matin, on parle d'un monsieur qui s'appelle Carl Faneuf. Lui, 5 jours après avoir acheté son véhicule, il a acheté un Audi Q4. Ça vaut quand même une bonne pochetée là, d'argent. Là. Il était sur l'autoroute 30 à Montréal et son auto a été immobilisée durant 7 semaines chez le concessionnaire parce que sa voiture s'est éteinte complètement.
C'est une plague présentement, ces véhicules-là. C'est bourré de problématiques. Leur indice de fiabilité au niveau des véhicules, tant au niveau des premiers Volkswagen aussi qu'on a eu, les fameux ID, tout ce qui est la série Audi, c'est une plague de problématiques au point tel que ça dort chez le concessionnaire. Souvent, on donne un véhicule de remplacement qui est souvent identique.
Ouais.
Et le véhicule de remplacement identique a le même problème pendant la période de réparation du premier. Ce n'est pas anodin, ces problématiques-là. Et je sais de quel article que tu parles quand on fait pas juste référence à Audi, on fait référence aussi
à VinFast. Aux véhicules.
Oui, VinFast, qui est une compagnie vietnamienne qui, en passant, quand je suis allé là-bas, là, je te dis, je me suis senti dans un autre monde, qui eux aussi vont très, très, très vite et encore une fois livrent des véhicules qui n'ont jamais été testés sur le sol quasiment canadien. Il y en a qui vont dire oui, mais je vous rappelle que le climat québécois et la réalité terrain, elle est différente ici.
Dans le cas de M. Todd, lui, a acheté un VF8 de VinFast, puis son véhicule, du jour au lendemain, a arrêté de fonctionner. Là, il est insatisfait. Il était chez le concessionnaire, puis le vendeur qui lui a vendu son véhicule, il dit, garde, écoute, pour te dépanner, là, garde-toi toujours une clé de 10 mm dans tes poches. Voyons, t'achètes un char neuf, puis ton vendeur dit, hey, regarde... Pas t'inquiéter avec ça, mais traîne tout le temps une clé de 10 mm là, dans tes poches, ça devrait t'aider. Là. Sacrifice, tu veux pas ça quand t'achètes un véhicule à ce prix-là?
Non, tu veux pas ça. Et il faut dire aussi que, tu sais, on parlait d'électronique tantôt souvent, mais il faut identifier la problématique, faire une mise à jour, développer tout ça. Ça se fait pas en criant citron, comme on dit. Donc, malgré les problèmes récurrents, constants, faut pas oublier que peut-être le meilleur moyen, et ça, je suis d'accord avec l'autre journaliste dans l'article, c'est de ne peut-être pas acheter ces véhicules-là. Et si vous désirez absolument en avoir un, louez-le, mais s'il vous plaît, faites un travail avant, cependant, surtout au prix que les véhicules veulent aujourd'hui, de regarder comme il faut la fiabilité d'un véhicule. Parce que maintenant, être arrêté sur le bord de la route comme ça, d'un, c'est pas sécuritaire, mais non seulement toutes les pertes de temps, et ça devient un combat avec le manufacturier pour faire valoir aussi ces différents droits. Et on n'oublie pas que du côté québécois, on a instauré dernièrement une loi anti-citron là, qui s'applique depuis l'automne 2023, mais les critères sont quand même assez serrés. T'sais, le véhicule doit être neuf, maximum 3 ans écoulés depuis la première vente ou encore la location, être toujours garanti par le fabricant et avoir moins de 60 000 km au compteur. Puis ce véhicule-là peut être déclaré gravement défectueux s'il y a eu 3 tentatives infructueuses de réparation, 12 tentatives de réparation pour des problèmes différents. Hey, 12, là! Quand tu es rendu que tu vas 12 fois au garage, là, ça commence à être quelque chose. Je trouve que cette loi-là, là, elle est ouf un peu. Là. Puis le véhicule, s'il passe plus de 30 jours chez le concessionnaire, mais bon, il y a certaines conditions qui s'appliquent. Si vous avez besoin de détails par rapport à tout ça, faites affaire avec l'Office de la protection du consommateur, faites affaire avec l'OPA, faites affaire avec des pros qui pourront vous guider. Si jamais vous êtes perdu dans ce monde-là.
Ouais.
Si vous avez besoin de direction, faites-nous signe, les journalistes automobiles. On veut des histoires comme ça. On veut aider les clients, puis c'est pour ça qu'on est là. Et j'espère, encore une fois, qu'en tant que manufacturier, il y en a qui vont apprendre. Puis là, je vais lancer une autre patente. Les manufacturiers aiment tellement pas ça, des histoires comme ça, qu'une fois de temps en temps, ils tentent de serrer la vis aux journalistes. Mais dites-moi une chose. Merci aux gens présentement qui font sortir ça. Merci à JE. Je vais serrer la main à mon chum Joubert parce qu'il est toujours très franc dans ses commentaires. On n'est pas d'accord sur tout des fois, mais sur celle-ci, je vais serrer la main là-dessus. On est là pour les consommateurs et ouais. C'est ça qu'il faut dans le monde.
Moi, j'ai essayé des véhicules électriques. J'ai adoré tous les véhicules électriques que j'ai essayés, mais je les avais pas pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Fait que ces problématiques-là, je les connaissais pas. Il y a un auditeur qui dit, tu sais, Yann, quand tu es en panne avec ce type de char-là, puis le char s'éteint là, sans aucune raison parce qu'il y a une problématique quelconque, il dit les 4 roues barrent, puis il n'y a plus moyen de pousser la voiture sur l'accotement. Tu es vraiment dans le trouble.
Ouais. Il y en a qui sont effectivement vraiment dans le trouble au travers de ça. Et ça devient un peu, tu viens avec une certaine peur aussi qui peut se produire. C'est pas la peur de manquer d'autonomie électrique, c'est vraiment la peur de tomber en panne. Ceci étant dit, il y en a quand même qui sont fiables. Mais des fois, les autres problèmes, c'est où est-ce que ça va se situer? Au niveau de la recharge, de la rapidité de la recharge, de certaines compatibilités. Puis je le sais que les propriétaires de véhicules électriques sont extrêmement défensifs dès qu'on parle de problèmes. Je te dis tantôt, je vais me revirer, je vais avoir 4, 5, 6 courriels de gens qui vont me dire « t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça ». Écoutez, la nouvelle technologie, ce n'est pas le consommateur qui a approuvé la fiabilité de ce produit-là. C'est le manufacturier qui doit faire le nécessaire pour être sûr que quand qu'on nous vend un véhicule à la hauteur de 80 000 bâtons, mais que ce n'est pas à nous qu'on a payé ça. Puis l'enquête de Consumer Report que je te parlais tantôt là, montrait que les modèles 2021 à 2023, là, ça c'était vraiment une étude là, quand même assez récente, qui ont présenté 80 % de plus de problèmes, principalement liés aux batteries, au système de charge, voire même des ajustements de carrosserie et d'intérieur. Je te dirais qu'il faut être prudent avec les nouveaux véhicules d'aujourd'hui, car la fiabilité générale de tous les véhicules, elle est en baisse. Puis je vais te rappeler un dernier vidéo que j'ai mis là, sur Question Auto et sur TikTok. Il n'y a pas un manufacturier qui y échappe. L'histoire de l'eau qui se rassemble dans les portes de Toyota Corolla, là, ça semble être encore problématique pour certains. Donc, je te dis tout de suite, c'est le genre de truc qu'on ne voyait pas tant que ça avant, mais qu'on semble avoir, voire même quand il y a une chaîne de montage qui est différente, un Corolla au Japon puis un Corolla aux États-Unis, et je te le dis tout de suite, il peut arriver des erreurs différentes au niveau du montage. Donc, imaginez les véhicules électriques qui sont beaucoup plus bourrés, bien que la technologie avance à une rapidité fulgurante, c'est pas réel du petit garage ici à côté qui va pouvoir te dire « Moi, je réparerai ça demain matin. » Moi, je te le dis, mon petit garage du coin commence déjà à s'adapter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des jobs les plus classiques, mécaniques. Tout ce qui est complexe, long ou qui sort de son scope, comme les véhicules électriques, désolé, je ne peux rien faire.
Mathieu, est-ce que dans ta boule de cristal, là, vers quelle année tu penses qu'on va en arriver à un pourcentage à peu près équivalent de fiabilité au niveau du véhicule électrique qu'on a pour les véhicules présentement traditionnels à essence?
Je vais te dire un grand paradoxe. Et ce grand paradoxe-là, c'est que je vais reculer très, très loin. Ford a pas mal été le premier à créer un véhicule hein, dans le temps. Hein. Mm-hmm. Donc, si on regarde ça, ça remonte dans les années. Hein, ça remonte dans les années 1910 quelque chose. OK? Je parle comme un vieux présent. Dites-vous une chose, les véhicules d'aujourd'hui, ce même type-là, c'est pas plus fiable à 100%. Est-ce qu'on va maîtriser à 100% la fiabilité dans le futur, je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, si on n'a pas appris depuis 1908, si on n'a pas appris dans les années 1930, si on n'a pas appris dans les années 45, si on n'a pas appris à faire de la fiabilité dans les années 80, ni même encore aujourd'hui en 2025, est-ce qu'on va vraiment l'apprendre un jour à 100%?
Ouais.
En tout cas, une chose est sûre, quand je regarde la liste des rappels de certains véhicules, aïe, 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 que c'est pas demain matin qu'on va l'apprendre. Donc, ma boule de cristal est incertaine, je ne peux te dire. Et n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un qui sort un nouveau produit, une nouvelle plateforme, une nouvelle programmation, une nouvelle technologie. Et celle-ci, c'est comme si le compteur se remet à zéro qu'on doit réapprendre la fiabilité de ça.
Il y a de ça, quelques années, je lisais des articles qui étaient écrits en Europe qui parlaient de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée en Europe a été prise très au sérieux parce qu'on considérait qu'il y avait des entreprises qui bénéficiaient de cette obsolescence qui était programmée à l'intérieur de leur outil électronique qu'ils vendaient à leurs clients. Et moi, je l'ai vécu de mon propre chef. J'avais acheté une laveuse-sécheuse superposée et après un an ou deux ans pile, là, la laveuse arrête, et ma sécheuse arrête, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, j'appelle le réparateur puis il me dit « C'est quelle marque? Parfait, c'est beau. On arrive. » Là, le monsieur arrive chez moi, il y a un tableau électronique dans les mains. Puis là, je dis « C'est quoi ça? » Il dit « C'est un tableau électronique. » Je vois « Mais vous n'avez même pas vérifié la laveuse-sécheuse. » Ah, il dit « Inquiète pas, il dit, après deux ans, c'est toujours ça qui lâche. » Je dis « Pardon? » Ouais, après deux ans, c'est toujours ça qui lâche. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, c'est toujours ça qui lâche? Bien, tous ces modèles-là, après deux ans, fait, là, j'ai compris ce jour-là que l'obsolescence programmée était bien et bien arrivée chez nous. Il existe l'obsolescence programmée aussi dans le merveilleux monde de l'automobile. Puis le gouvernement avait décidé de mettre des nouvelles règles contre l'obsolescence programmée. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que l'industrie automobile menace de s'exempter de ces nouvelles règles-là qui protégeaient les consommateurs qui achetaient des véhicules.
Oui, exactement. Et c'est à partir du 5 octobre que cette nouvelle loi-là sur la réparabilité de tous les produits est un produit qui est classique aux consommateurs. Encore une fois, c'est l'automobile. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'automobile qui évolue au travers du temps, comme tantôt, on parle de pièces de rechange, on parle de données techniques aussi nécessaires aux réparations. Ce qui signifie qu'on veut quand même être capable de faire réparer notre véhicule où est-ce qu'on le souhaite, y compris dans des garages indépendants, exactement comme ce que je te disais tantôt, et sans être obligé de passer par le concessionnaire. C'est quand même un libre choix. Je comprends que les concessionnaires, ça ne le tente pas d'entendre ça.
Ouais. Comment tu décrirais l'obsolescence programmée pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'obsolescence programmée? On pourrait dire que c'est quelque chose qu'on a inclus dans la programmation de ces appareils-là qui fait en sorte qu'on leur donne une date de péremption?
Ben, écoute, dans l'automobile moderne, là, une voiture, ce n'est plus juste un moteur et des... C'est un ordinateur sur roue. Même un simple changement de plaquette de frein là, ou encore d'huile, ça peut nécessiter l'accès à des données diagnostiques qui permettent de connecter un outil à l'ordinateur de la voiture pour débloquer des fonctions puis s'assurer que tout fonctionne correctement. Puis sans ces données-là, les garages indépendants ne peuvent pas nécessairement faire les réparations. Donc, le nerf de la guerre, il est souvent là aussi. Pas juste nécessairement l'accès aux pièces. Mais l'accès aux pièces en est un autre exemple. Tantôt, on parlait de véhicules électriques. Ceux-là qui ont acheté différents véhicules, là, vraiment dans l'ère un peu précurseur du côté électrique, voire même des Spark, ben, on se rend compte que le manufacturier ne fait plus ces batteries-là pour ces véhicules-là. Puis c'est pas comme s'il y avait un choix de 18 pièces alternatives avec des compagnies alternatives. Donc, ce qu'on veut aussi au travers le temps, c'est que les associations de consommateurs ils demandent que les constructeurs soient toujours obligés de fournir ces pièces et données, bien important, pendant 12 à 15 ans sans une possibilité d'exemption. C'est ça en tant que tel aussi qu'on ne veut pas réaliser. Sinon, là, imaginez comment déjà certains appareils comme téléphoniques, comme les iPhones, voire même au travers du temps, tu sais, là, ça fait partie d'un litige d'obsolescence. Le meilleur exemple aussi est au niveau des câbles, des fois, d'avoir vraiment un câble particulier pour un appareil, une batterie particulière pour un appareil. Il va falloir à un moment donné qu'on regarde collectivement pour avoir le plus de trucs communs. Est-ce que l'automobile pourra en faire partie? Pourquoi il n'y a pas un standard de batterie, un standard de pièces qui coûterait moins cher collectivement, qui tenterait de diminuer cette obsolescence-là parce que ces pièces-là vont être d'un standard aussi au travers le temps. Ma boule de cristal qui vient de ressortir là-dessus en passant. Donc, pour les consommateurs, au bout aussi, il faut quand même avoir une certaine liberté de choix et de coût, tant au niveau de la réparation de la voiture, l'endroit de son choix, sans être captif d'une compagnie qui serait très gourmande pour créer de l'obsolescence au travers
parce
de
que les
temps.
Véhicules et... modernes deviennent une chasse gardée actuellement, puis le petit garagiste du coin qui est là toujours pour te rendre service, qui a une solide expérience, des décennies d'expérience, quand il voit ces nouveaux modèles-là arriver, il va être capable de les réparer, mais ça prend de l'information nécessaire, parce que pour certains véhicules, des changements d'huile, changement de plaquette de frein, ça nécessite une connexion au système informatique du véhicule, puis si le garagiste n'est pas capable d'avoir cette connexion-là, ben, tu comprends qu'il ne peut pas réparer ton véhicule. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent se garder une petite chasse gardée en disant ben, ce qu'on veut, c'est que les clients qui achètent nos voitures aient chez leur concessionnaire. Puis là, ben, souvent, ces gens-là vont peut-être payer un prix qui est peut-être un peu plus élevé.
Et tu sais, j'aime l'agricole. Il y a John Deere qui est dans un grand, grand procès. Là. J'ai poursuivi dernièrement si ça s'est réglé ou non. Hein. Mais écoute, ça l'a fait jaser tous les agriculteurs qui achetaient un tracteur de nouvelle technologie. John Deere se gardait le monopole du diagnostic, la réparation, terminer la petite réparation dans le champ sur le côté. C'est un peu ce que tentent de faire les concessionnaires automobiles présentement. Puis pour les garagistes, là, ici, là, c'est une question de survie économique aussi, là. Tous les petits garages et les magasins de pièces indépendants, tu le sais, l'automobile, c'est une économie impressionnante. Puis moi, mon petit garage du coin, là, je vais le nommer, là, ma station service alpin à Sainte-Brigitte, puis Jacques qui s'occupe de ses clients, là, puis qui s'assure qu'ils ne se font pas avoir aussi, là, bien, je veux qu'ils restent pendant le plus longtemps possible parce qu'on a besoin des petits garages comme ça pour être capable d'avoir leur juste, puis pas de se faire avoir à gros tarifs horaires dans des concessions pour des fois des choses un peu plus classiques.
Mathieu Thomassin, pour les gens qui veulent en savoir plus sur le merveilleux monde de l'automobile, on s'en va directement sur YouTube. Question auto, car question, ou encore sur tes réseaux sociaux, Mathieu Thomassin, chroniqueur auto.
En plein ça, la page Facebook de Stancy, on a plein de belles nouvelles, plein de beaux vidéos. Je vous en fais des cours. On parle de sécurité, un petit clin d'œil à Carl Malenfant. Et bien entendu, on se rappelle aussi que t'es vieux parce que K2000 a sorti en septembre 1982. Mm-hmm. Donc, même si on est rendu au mois d'octobre, je vous le dis tout de suite, ça me donne un petit coup de vieux. Voilà des petites vidéos divertissantes.
Quel bruit que produisait K2000, Keith? C'est Keith, hein, qu'on l'appelait, ouais. Non, c'était pas ça. Jeff, c'était quel bruit?
Aucune idée.
C'était le bruit d'un pigeon.
Oh! Aïe, aïe, aïe. Merci, Marceau.
Tu te souviens-tu encore de l'ouverture de l'émission de K2000?
Oui, monsieur, je m'en rappelle encore. Et sais-tu quoi? Je l'adore, surtout avec la voix française qui était un peu plus particulière, spécifiquement pour la version. Hey, en passant, le titre de la série, c'était K2000 en français parce que KIT était l'acronyme de Knight Industry 2000, puis le nom de l'ordinateur de bord qui donne son nom à la série. L'ajout du 2000 à KIT signifiait le Knight 2000 qui avait été utilisé pour le titre français. Écoute, l'idée d'une voiture futuriste est ancrée dans notre... Je pense que n'importe quel jeune de notre âge aujourd'hui s'en rappelle encore d'avoir vu cette série-là. Et on appuie sur le bouton Turbo Boost.
Écoute ça, Matt.
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
Keith allait jusqu'à 230 000 à l'heure.
Ouais, j'ai commencé à lâcher un peu là, quand il sortait un kit pour rouler sur l'eau. Je sais pas si vous vous rappelez cet épisode-là. Là. Et non seulement qu'il y avait le kit de super vitesse, là, la voiture se déformait. Mais dites-vous que des gens aujourd'hui s'arrachent ces véhicules-là. Essayez d'en trouver un propre. Il y en a même qui vendent des kits intérieurs là, pour que ça ait l'air de K2000, comme on dit. Ça risque d'impressionner encore une fois certaines personnes.
Ça m'a tellement marqué, parce que moi, je voulais être David Hasselhoff dans K2000. Puis j'ai été déçu quand je l'ai vu dans Baywatch, je peux te le dire. Mais par contre, j'écoutais Baywatch pareil pour Pamela Anderson.
Ah ouais,
mais,
comment ça, non?
Ça
va, hein?
C'est grand rôle.
Ah, mais moi, c'était Yasmine Bleet.
Oui, mais Pamela, quand elle courait sur la plage, il y avait comme un charme qui s'opérait.
Écoute, chacun son style.
Mais bref, j'ai tellement été marqué par K2000 que quand j'en vois une K2000 sur la route, là, je m'en vais tout de suite sur Marketplace pour savoir comment ça vaut aujourd'hui si je pourrais pas m'en racheter une. C'est fou,
Elle. Écoute, prépare à sortir tes scènes parce que je te confirme qu'il y en a qui attachent encore une grande valeur à ce véhicule-là. Puis, hein, Marceau, 1982, la série. À toi aussi, mon ami.
Salut, Mathieu Thomas.
Salut, Mike.
Chroniqueur automobile qui nous rappelle des beaux souvenirs. 9h44, on fait une courte pause. 418-971-1021, 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route.
Exactement, présentement, tout va bien sur la route.